Afin de parler de l'impact de l'administration Trump sur le secteur IT aux US, nous avons fait parler à un Frenchie expat qui s'est investi énormément pour former et faire collaborer les artisans du monde tech. Nous interviewons donc par satellite Rudy Rigaud, senior software technologist expatrié aux États-Unis, cofondateur de la Humbleton School, école de formation de code à San Francisco, auteur de livres techniques dont Projet responsive web design avec Jérémy Patonnier et Programmer en Go, pourquoi, comment, et ex-monsieur loyal des conférences Sud-Web. CPU, carré, petit, utile. Oui, ex-monsieur loyal, même, je tiens à faire une précision, Rudy est la première personne à m'avoir introduit à une conférence professionnelle, donc ça me fait immensément plaisir, du coup, de t'avoir introduit.
Voilà. Ben, je ne savais même pas ça, donc ça me fait plaisir de savoir.
Rudy, comment t'es-tu mis à la programmation ?
Ça a été très progressif. En fait, je pense comme la plupart des gens de notre âge, parce qu'on est des vieux, je sais pas si toi t'as eu la même période au lycée où tout le monde s'échangeait des disquettes avec des photos de séries télé de Beverly Hills.
Non, c'était des disquettes d'Apple II et c'était au collège.
Ah, zut.
Ça remonte. Non, mais... c'était juste avant la loi de 85.
Ouais. Non, mais voilà, moi, c'est un peu comme ça que ça a commencé. On avait un atelier informatique, il y avait un prof qui nous a appris le HTML, c'était super basique, c'était sympa. Et vu que j'aimais MSN Messenger, j'ai fait la fac d'informatique sans trop savoir pourquoi. Et puis, en fait, c'était cool. Et du coup, je suis tombé dedans. À la base, je voulais faire une école de comédie. Alors, ma mère a pas voulu et du coup, j'ai fini comme ça. Voilà. Donc,
alors que t'es un sacré comédien quand même, vraiment. En fait, après la fac, quel a été ton parcours?
En fait, déjà rien qu'à la fac la dernière année, en fait, j'ai étudié dans le Missouri aux États-Unis, donc c'était vraiment ma première expérience internationale.
D'accord.
Et je suis revenu en France, j'ai bossé 5-6 ans à Paris, principalement pour une agence web qui s'appelle Clever Edge, qui est une très bonne boîte qui est toujours là-bas, qui a
excellente réputation d'ailleurs.
Ouais, carrément, avec qui je garde des super bons contacts. Et puis, j'avais vraiment le projet de revenir aux États-Unis, c'était une culture qui m'avait bien plu, j'avais envie de découvrir plus de choses et tout. Et donc, du coup, j'ai bougé en Californie il y a 4 ans, je crois à peu près. Et en Californie, je fais plusieurs trucs. J'ai bossé à Apple pendant un an. J'ai donc monté Humbleton School, dont tu viens de parler, qui existe toujours et qui est super, qui fonctionne vraiment bien, mais dont je ne fais plus partie. Et ensuite, j'ai bougé à Chicago. J'ai bossé pour Salesforce pendant un temps. Et là, en fait, je viens de rejoindre, il y a genre un mois, une startup qui s'appelle Kena Security, donc qui n'est pas connue du tout, mais qui est en grosse croissance. En fait, j'avais envie de rejoindre un truc qui avait déjà du succès et de voir un peu comment ça se passe, l'hyper-croissance vue de l'intérieur, parce que je n'avais jamais trop fait ça. Et voilà, maintenant, du coup, je suis là-bas et je suis à Chicago. Quoi.
C'est cool. Là, tu dois te les geler parce qu'on est en janvier. Chicago, c'est climat continental.
Théoriquement, ouais, sauf qu'aujourd'hui, non. Mais je sais pas pourquoi.
Bon, d'accord.
Oui, théoriquement, oui.
Depuis quand rêvais-tu de partir de l'autre côté de l'océan ?
Tu sais quoi ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais... En fait, c'était pas du tout un intérêt que j'avais quand j'étais étudiant. J'avais un pote, en fait, en avant-dernière année de master qui avait décidé de partir en Alaska. Pour sa dernière année de master, parce que c'était juste l'université jumelle de la nôtre, j'étais à Saint-Étienne. Et en fait, il m'a donné envie, quoi. Et du coup, on s'est posé, je me rappelle toujours cette conversation, parce que c'est un peu la conversation qui a le plus changé ma vie, au final, où on allait de temps en temps au resto, lui et moi, pour fêter quand on avait des bonnes notes, voilà. Et on s'est fait un resto, et je lui dis, t'as trop de la chance et tout, tu parles au bout du monde et tout. Et il me disait, mais toi, t'as qu'à le faire aussi, y a rien qui te retient. Je dis, non, mais écoute, mec, tu comprends pas, c'est pas possible, j'ai un job, je bossais dans un hôtel pour financer mes études, je peux pas quitter le job. Il fait, ouais, mais tu vas pas bosser dans cet hôtel toute ta vie. Ouais, c'est vrai, mais bon, tu comprends pas, j'ai aussi mon appart. Oui, mais tu vas pas rester dans ton appart toute ta vie. Et puis à la fin de la conversation, en fait, j'ai un peu pris dans la tronche, en fait, c'est des fausses excuses, quoi. Et du coup, en sortant de là, il m'a fait promettre de le rejoindre la semaine suivante pour aller parler à la conseillère en éducation internationale, je sais plus comment ça s'appelait, mais bon, la dame qui organise les échanges internationaux. Et il y avait plus de place en Alaska, donc c'était clair. Et mais pas, j'ai insisté quand même. Et je fais, c'est pas grave, je le fais quand même. Et c'est comme ça que j'ai fini. C'était vraiment un coup de cul, hein, à la base. Moi, je m'en fichais que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. En fait, c'était vraiment, j'avais envie de faire un truc qui me sorte un peu de ce dont j'avais l'habitude, découvrir une autre culture, pas me retrouver dans la situation où, genre, ah bah tiens, ça fait 10 ans que je bosse. Et en fait, j'ai jamais voyagé. Tu vois,
ah,
fait,
oui,
c'était
oui.
Un peu ça à la base.
Ouais, je comprends tout à fait. Est-ce que. Bon, là, on va parler un petit peu de politique, donc j'espère que les oreilles indiscrètes de la NSA vont pas te mettre une fiche rouge et le double T sur les tables, sur ton billet d'avion. Alors, le double T, ça veut dire que vous faites systématiquement fouiller par la TSA. Est-ce que c'est encore intéressant pour les Français de s'établir aux États-Unis actuellement?
Ben, en fait, il y a un truc qui me, en gros, le truc avec les États-Unis, c'est que ça me rappelle un peu comme quand je bossais chez Apple. C'est un sujet qui est super controversé, mais vraiment, genre, il y a des gens qui adorent les États-Unis, il y a des gens qui détestent les États-Unis, un peu dans le même sens, il y a des gens qui adorent les iPhones, il y a des gens qui détestent les iPhones. Et en fait, quand t'es dedans, en fait, tu dis, mais, en fait, c'est juste un pays, quoi. Et c'est juste, l'iPhone, c'est Apple, c'est pareil, c'est juste une boîte qui essaie de faire des produits, quoi. Et du coup, c'est des gens qui essaient de prendre des décisions, qui prennent pas les meilleures, qui essayent de faire des choses, mais bon, voilà, c'est. Mais toute la controverse autour et l'émotion autour, en fait, elle passe un petit peu au-dessus, quoi. Je pense que les États-Unis, c'est un pays qui est intéressant. Je trouve que c'est une culture qui est intéressante. Il y a plein d'autres cultures intéressantes. Je pense, j'ai un peu, enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu naïf, mais je me dis qu'il y a. Pour chacun d'entre nous, il y a un peu peut-être une culture quelque part dans le monde, tu vois, qui est la plus adaptée à chacun d'entre nous, tu vois, genre. Moi, j'aime bien les États-Unis, mais je dis pas que c'est le pays qui était fait pour moi non plus. J'y suis bien, mais bon, je dis pas que je vais y rester, passer le reste de ma vie. Mais je trouve que c'est important, chacun, tu vois. Je me suis toujours dit, c'est un peu provocateur, mais je me dis que j'entends beaucoup de Français qui disent, bah non, mais tu dois rester en France. C'est pareil un peu dans pas mal d'autres pays. Tu dois rester dans le pays dans lequel t'es né parce que tu vois, tu dois quelque chose et tout. Et je me dis, mais ça rend pas service, en fait, au pays duquel tu viens d'accepter complètement inconditionnellement toutes ces décisions, quoi. Et de dire, bah voilà, moi, je suis d'ici et j'ai une fidélité. Ah non, ça rend pas service. Ça te rend pas service à toi. Ça rend pas service au pays non plus. Ce qui est important, c'est de trouver là où tu as envie d'être, d'y aller et d'y être bien. Et si tu es plus bien, d'aller ailleurs. Et enfin, tu vois. Je me sens pas trop avoir d'attache, en fait, d'un point de vue nationaliste du tout, quoi, en fait.
D'accord. Est-ce que tu recommanderais un étudiant à venir étudier aux États-Unis, et avec quels arguments? Je veux dire, pas forcément l'argument de la disponibilité légale de la bouffe.
C'est peut-être un bon argument pour certains. Moi, je ne juge pas.
On est sur éphémère, hein, malheureusement. Ça intéresserait beaucoup de monde.
je te crois. J'imagine que ça doit dépendre des domaines. Je peux parler beaucoup de la tech, parce que c'est celui que je connais le plus. Mais en tech, venir bosser, surtout en Californie, ça a vraiment du sens. Parce que, tu vois, je suis arrivé et j'ai pu bosser pour Apple, j'ai pu bosser pour Salesforce, qui sont des vraiment très bonnes boîtes. Et ce n'est pas très difficile quand tu es en Californie. C'est vraiment la plupart des jobs, en fait, dans la tech en Californie, c'est beaucoup des jobs comme ça. Et même souvent, ce n'est pas vu comme très glorieux, en fait, de rejoindre une grosse boîte comme ça par rapport à une startup plus risquée, tu vois. Donc, c'est un peu des jobs confortables. Du coup, ça a du sens, en fait, je pense, pour lancer une carrière quand tu es junior ou quand tu es stagiaire, de chercher un gros, beau nom à mettre sur ton CV. Après, il n'y a pas non plus que la Californie dans le monde. Il y a d'autres super belles boîtes qui peuvent être, même rien qu'en Europe, tu vas bosser pour Spotify en Suède, je crois. Tu vois, c'est déjà un super beau nom. T'as plein d'autres boîtes ailleurs. Mais c'est vrai qu'en Californie, tu en as beaucoup plus en termes de concentration qu'ailleurs. Donc, ça a du sens dans ce sens-là. Après, les autres domaines, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas.
Professionnellement, quels sont les différents types de visas qui sont disponibles pour aller travailler aux États-Unis?
Alors, c'est un peu compliqué. C'est un domaine qui m'intéresse vachement, en plus. Donc, du coup, si tu me lances là-dessus, je vais en parler pendant des heures si tu m'arrêtes pas. Donc, je vais essayer de.
S'il y a trop de références et tout ça, on les renverra sur la page de l'émission où on mettra tous les liens, de toute façon.
Ouais, si tu veux. Mais de toute façon, dans ces cas-là, de toute façon, il vaut mieux rester un peu superficiel et dire, si vous voulez avoir vraiment du vrai conseil, parlez absolument à un avocat. C'est des concepts qui sont, des conseils qui sont très complexes, qui dépendent vraiment de votre situation. Donc, n'écoutez vraiment pas les conseils de Enfin, ne prenez pas pour argent comptant les conseils de qui que ce soit, sauf un avocat, sur ce type de sujet. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'on parle beaucoup du H1B, parce que c'est le visa un peu d'immigration professionnelle. Mais il y a pas mal d'autres pistes, hein, même qui sont relativement réalistes pour pas mal de gens qui bossent et qui sont pas du tout HMB. HMB, il y a beaucoup de désagréments, notamment le fait que ce soit, il y a tellement d'inscrits que c'est devenu une loterie, notamment le fait qu'il faut s'inscrire en avril pour arriver au pays en fin d'année. Donc, ça fait, pour certains employeurs, c'est vraiment un risque gros que de devoir t'attendre pendant aussi longtemps. Ils auront peut-être plus besoin de toi le temps que tu sois là, quoi. Donc, il y a beaucoup de risques, en fait, autour du HMB qui sont pas nécessairement intéressants, mais il y a d'autres pistes. Il y a le L1 qui est un visa de mutation. Donc, par exemple, tu peux bosser dans une boîte à l'étranger pendant au moins 12 mois. Et après, c'est très, très simple, du coup, pour eux de faire un visa L1 s'ils en ont envie, évidemment, pour te muter aux États-Unis. Et c'est un visa qui est très déterministe. Ça marche, tu vois, c'est pas très complexe. Il y a le visa O1 qui est, il y a beaucoup de gens qui, quand ils disent sur le visa O1, se disent, ah oui, mais moi, j'ai pas de prix Nobel, donc je peux pas le faire. Et non, c'est pas ça. En effet, les prix Nobel peuvent avoir des visas O1. Mais moi, j'en ai eu un visa O1, par exemple. C'est pas aussi difficile que ce que ça donne l'impression. Surtout dans la tech, ce que la personne qui va juger ton dossier quand t'as un visa O1 va regarder, sachant que c'est des gens qui ne connaissent rien en tech, évidemment, hein, c'est des agents du gouvernement. Okay. Normal, hein, ils peuvent pas s'y connaître dans tous les domaines. Donc, c'est des gens qui sont des spécialistes de l'immigration, mais pas des spécialistes du domaine dans lequel t'es. Donc, ce qui compte pour eux, c'est est-ce que t'as eu des récompenses? Est-ce que t'as eu des... t'as écrit des publications, est-ce que t'as parlé à des conférences, et c'est des trucs qui sont pas nécessairement très durs à obtenir en tech, tu vois. Donc du coup, il y a moyen, en fait, visa O1, si tu bosses et que tu t'amasses un petit peu toutes ces preuves-là et tous ces trucs et tous ces succès qui sont pas tellement difficiles, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien aussi. Et puis, il y a le visa E2, mais le visa E2, c'est un peu bizarre. Je pense qu'on va en parler un peu plus, je crois que t'avais l'intention de me parler un peu de Laurel et de son bouquin.
Pas spécialement, mais L2, c'est lié en fait à une entreprise, c'est ça?
E2, ouais, c'est ça. Et moi, je l'ai eu à une époque.
Et c'était le piège dans lequel elle était tombée, quoi.
Ouais, et j'ai eu la même histoire, moi. Donc, c'est comme ça. Ouais, c'est assez courant et c'est pas particulièrement les entrepreneurs français. Hein. C'est un peu tous les. Il y a 34 pays, je crois, dans le traité E2. Et c'est souvent, même quand l'employeur le veut pas spécialement à la base. Quand c'est une situation un peu comme ça, où il y a une certaine précarité immigratoire, où tu sais que si tu perds ton job, bah, t'es obligé de bouger du pays et tu veux vraiment pas que ça se passe, ça crée une relation bizarre avec l'employeur, quoi. Et c'est pas sain, en fait. J'ai une histoire un peu similaire, peut-être pas aussi violente que Laurel, mais peut-être plus violente sur certains autres points, d'ailleurs. Mais c'est comme ça que je l'ai rencontré à l'époque, d'ailleurs, parce qu'on a vécu un peu une histoire similaire. Et c'est pas cool, et ça arrive. C'est pas rare, malheureusement.
Donc, on est un an depuis l'investiture de El Señor Trump. Est-ce qu'il y a eu un durcissement dans l'employabilité des non-citoyens américains pour les entreprises?
Je pense par la force des choses, oui. Je pense.
Attention, j'ai oublié de préciser dans la question, uniquement on parle d'immigration légale. Déjà,
ah oui.
Ce qu'effectivement, il y a deux niveaux, quoi.
Ouais. Alors, l'immigration illégale, carrément plus. Hein, il y a énormément de. De descendre de ICE, qui est les gens qui arrêtent les immigrés clandestins. Il y a vraiment une accélération de tout ça. La situation des réfugiés est particulièrement plus difficile qu'elle l'a été, même si ça, c'est légal pour le coup. Mais même, en fait, il y a aussi pas mal de choses qui se passent, qui sont un peu des choses subtiles par rapport aux situations légales, ou genre, finalement, les époux ou épouses de gens qui ont H1B, finalement, on a décidé d'arrêter le programme avec lesquels qui va les autoriser à travailler. Le H1B, il y avait tel bénéfice qui n'était pas nécessairement dans la loi. Donc, vu que c'est pas la branche législative qui l'a autorisé, Trump, c'est la branche exécutive, on va retirer ce bénéfice-là. Et tu vois, tu remarques ces choses-là qui font un peu que tu sais que l'immigration va être un peu plus difficile sur les années qui viennent. Ça crée une perte de confiance de la part des employeurs par rapport au fait que le risque, elle va sans doute être plus élevée. Et par la force des choses, du coup, ils y réfléchissent plus à deux fois qu'avant, quoi. Et c'est normal, hein. Franchement, ça se comprend. J'ai monté un site à une époque qui s'appelle techmeabroad.com, dont le concept, c'était vraiment de mettre en connexion, qui est toujours là d'ailleurs, hein, de mettre en connexion des employeurs et des employés à travers les frontières pour, en fait, je cherche un super bon développeur, c'était purement tech, hein, le site, développeur n'importe où dans le monde, où que je sois, je vais l'immigrer. Et à l'époque, la difficulté qu'on avait, c'était vraiment les employeurs, ils voyaient que c'était difficile, quoi. Comment tout le processus immigratoire, les mecs qui cherchaient du boulot, les mecs et les filles qui cherchaient du boulot, ouais, étaient super excités, super contents. Ça, les employeurs, c'était honnêtement dur pour eux de s'imaginer faire tout ce processus. Donc aujourd'hui, je pense que c'est encore plus honnêtement dur. Et du coup, ouais. Après, c'est Enfin, moi, je plains pas les États-Unis là-dessus. Je dis pas, oh mince, c'est exactement ce que le gouvernement veut faire. Ça leur fait du mal. Tant pis pour eux. Hein. C'est une décision qui a été prise. C'est un peu pareil en France. L'immigration des talents étrangers est difficile. L'intégration, et tant pis, quoi. C'est une décision qui est prise. Et tant pis, quoi. Il y a des pays qui intègrent mieux. Tant pis.
Et tant mieux pour l'Europe, peut-être. On a déjà
Peut-être,
posé la question à Laurel, mais qu'est-ce qui est le plus dur aux États-Unis? Est-ce que c'est l'absence de fromage décent?
Alors, non, parce que, alors déjà d'une part, niveau bouffe, c'est super difficile, différent entre la Californie et ici. Où ici, il y a vraiment une vraie culture bouffe qui n'existe pas vraiment en Californie. En Californie, ils ont des très très bons ingrédients, mais ils les cuisinent pas vraiment, tu vois. Alors qu'ici, c'est tout le contraire, ils ont des ingrédients qui sont bien, mais par contre, ils ont une culture de la préparation de la bouffe, de la cuisine et tout ça, qui est super intéressante. Et pour le coup, ils ont des très très bons fromages, mais ça coûte un peu cher. Donc en France, tu manges un fromage, tu vois, tu t'en manges à tous les repas et ça se passe. Ici, tu manges un fromage, c'est un peu un événement, mais ils sont super, super bons. Par contre, le pain, il n'y en a pas. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y en a pas.
Ouais, bah, je connais quelques expats qui font du pain aux États-Unis d'ailleurs, du coup,
Ouais, mais j'ai essayé, hein,
quitte à abandonner leur poste de lead dev Node.js, donc c'est dire.
Ah ouais, oula, waouh, du niveau. Non, j'ai essayé, hein. Je suis allé dans des boulangeries françaises et tout ici, d'expats français, des vrais français qui parlaient avec un accent bien français. Et non, c'est pas pareil. Alors, je pense qu'il doit y avoir des ingrédients, des trucs comme ça. Après, moi, ce qui me manque enfin, ce qui est le plus difficile, hein, je pense, c'est comme tout le monde en vrai, hein, c'est les gens, quoi. T'as la famille, les amis qui sont restés là-bas, et du coup, bah, nécessairement, moi, j'ai fait un choix de vie où je bouge beaucoup. C'est pareil, hein, que ce soit en France ou San Francisco. Il y a des gens à San Francisco aussi qui me manquent. Quand je partirai de Chicago ou quand je partirai des États-Unis, si ça arrive un jour, bah, pareil, les gens d'ici me manqueront. Mais c'est vrai que tu te dis, ah, merde, quand même, mes potes en France, ma famille en France, ça part jamais vraiment, quoi. Normal.
CCPU, le magazine Carré Petit Utile, et nous sommes donc avec Rudy Rigaud, senior savoir technologiste, qui est expatrié aux États-Unis, plus exactement à Chicago. Vu des médias en France, on n'aurait jamais cru à la victoire de Trump, mais c'est clair que on n'a pas vraiment bien compris au final que justement il avait une chance parce qu'on n'y vit pas et on nous le présente d'une manière un petit peu peut-être biaisée. Quel a été ton ressenti le soir de son élection?
Ben moi, ouais, enfin, après, moi, je suis nécessairement biaisé d'une certaine manière, puisque j'ai vécu longtemps en Californie. Maintenant, j'habite ici à Chicago. C'est deux endroits extrêmement démocrates.
Bah, d'ailleurs, c'est de là il est de Chicago, Obama.
Ouais, et Clinton aussi.
Oui, c'est
Donc,
vrai. Ah oui.
ouais, c'est une ville qui est très, très, très démocrate, Chicago. Ils ont voté enfin, si tu regardes, je me rappelle plus quel est le score par rapport à l'élection Clinton-Trump, mais enfin, Trump s'est fait écraser à Chicago, c'est bien normal. Donc du coup, je l'ai pas vu venir non plus. Hein. Franchement, j'étais super choqué, j'étais super outré, et j'ai pas, sur le coup, j'ai pas compris. Maintenant, je regarde en arrière et ça a plus de sens pour moi ce qui s'est passé ce soir-là. Par le fait, à l'époque, je me disais ouais, j'ai rien compris sur les États-Unis en fait. Et en fait, quand tu réfléchis, tu te dis mais non, c'est pas possible que de se tromper à ce point sur les États-Unis. C'est un pays qui a toujours été politiquement super progressiste, qui a élu. Avant Trump, c'était quand même leur premier président issu de la minorité, ce qui est quelque chose qu'on voit vraiment très peu dans les autres pays du monde, tu vois. Et c'est les mêmes voteurs qui ont voté pour Obama et pour Trump, tu vois. Donc tu te dis, attends, il y a un truc, c'est les gens qui ont voté comme ça, il y a un truc que j'ai pas compris. Et je pense qu'il y a beaucoup à expliquer par rapport au fait que les gens, ils votent beaucoup aux États-Unis contre le gouvernement. Ils aiment pas leur gouvernement du tout. Ils ont aucune confiance dedans. Comme en France, les gens, ils aiment pas trop leur gouvernement non plus, mais sauf qu'ici, ils sont vraiment hostiles à leur gouvernement, quoi. Et du coup, c'était vraiment, ah bah tiens, c'est le candidat qui va éclater le gouvernement, que ce soit Obama ou Trump. Tu vois, c'était un peu ça l'idée, quoi. Après, il y a un truc que je réfléchis avec un an de recul, tu vois, maintenant, ça fait un tout petit peu plus d'un an qu'il est là où il est. C'est que je me dis, tu vois, surtout en tant qu'ingénieur, on nous a toujours dit, quand tu mets un service en ligne, ben, tu dois toujours tester ton service en production et mettre du chaos en production. Du coup, je me dis, Trump, c'est un peu ça. Trump, c'est le chaos en production et le bordel en production dont les États-Unis avaient besoin. Et on teste un peu la résilience du système. Est-ce que vraiment, eh ben, ça va se maîtriser seul et se compenser? Et c'est pas mal pour l'instant quand tu regardes. En fait, t'as beaucoup de choses que Trump voulait faire, qui étaient vraiment abjectes, qui faisaient peur. Et qu'il peut pas faire, parce qu'il est bloqué, en fait, vraiment, par les deux autres branches, donc la branche législative et judiciaire. et qu'il n'arrive pas à faire. Il y en a qui l'arrivent à faire, hein, clairement, donc c'est emmerdant, mais c'est comme ça. Mais les trucs les plus tarés et les plus complètement, voilà, ça passe pas. Il y a des gens qui l'attaquent en justice, il perd, le truc passe pas. Et quand tu réfléchis, en France, j'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça, par exemple. Et il y a beaucoup d'autres pays où c'est pareil. Quand le président il prend une décision, c'est une décision destructive. Tu peux pas l'attaquer en justice et tu peux pas, ou si quelqu'un l'attaque en justice, la décision, c'est difficile de la faire tourner. Là, ça arrive tout de même, quoi.
Oui, le régime, coup, le régime législatif aux États-Unis est beaucoup moins présidentiel qu'en France, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a vraiment beaucoup de recours. Oui. L'ambiance le lendemain de l'élection dans les entreprises de la high-tech, comment en fait tes contacts, ils l'ont vécu, ça a été le coup de massue derrière la tête
hein. Ouais, beaucoup. À l'époque, je bossais pour Salesforce le jour de l'élection. Une boîte franchement de gauche, qui est très, très, très de gauche, avec beaucoup de missions humanitaires et de blabla. Et dans tout mon département qui fait 300 personnes, on a eu un jour de congé le jour d'après, un jour de congé surprise, quoi. Parce que pour que les gens récupèrent. Vraiment. Réellement.
Ah ouais.
Ah bah ouais, parce que les gens l'ont extrêmement mal vécu. Toujours maintenant, les gens, ils sont un peu continuellement choqués. Tu le vois dans les news, tout est fait un peu pour, Trump a encore fait ça, quoi. Et puis tout le monde se prend la main dans la tête et a honte, quoi. Après, un truc positif, c'est que les gens, ils sont plus engagés aussi, maintenant. Mmh. Ils ont vraiment envie, tu vois, ils sont dehors, ils font bouger les choses, et ça a vraiment des conséquences. Ça fait que tu as des législateurs républicains qui, du coup, devraient normalement dire oui à tout ce que Trump dit, mais qui ils réfléchissent à deux fois. Donc, c'est un positif, mais bon, après, oui, il y a beaucoup de côtés négatifs quand même, donc c'est un petit côté positif, quoi. Mmh.
Bloomberg a cité récemment, donc c'est à. Donc on enregistre là, on est le 28 janvier, et donc c'est un article qui est sorti cette semaine. Bloomberg donc a titré que les États-Unis quittent les 10 pays les plus innovants au monde. Calcul qui est fait selon des indicateurs composites. Mais est-ce que toi, tu as vraiment ressenti une perte de la créativité au niveau d'un continent entier à cause de cette élection, ou c'est complètement subjectif?
J'ai plusieurs sentiments par rapport à ça. D'une part, je suis pas surpris. Je pense qu'il y a plein je pense que c'est la plus importante à dire. Il y a plein de scènes startups qui sont intéressantes, qui sont émergentes dans le monde et qui sont vraiment à suivre. La France en fait partie. Il y en a pas la seule. Il y en a beaucoup d'autres qui sont intéressantes et prometteuses, entre guillemets. Tu vois, il y a des choses qui se passent. Je pense que c'est pas une question de créativité. Je pense en moyenne, j'ai pas du tout j'ai pas du tout la croyance que, le français moyen est plus ou moins créatif que l'américain moyen, ou que le brésilien moyen, ou que le japonais moyen, quoi. Je pense que c'est vraiment plus, est-ce que l'environnement qui est autour de cette créativité maximise, optimise le fait que cette créativité, elle crée de la valeur marchande, ou est-ce qu'il y a beaucoup de friction, tu vois. C'est plus ça, à mon avis, les critères qu'il faut regarder, tu vois. Et après, qu'est-ce que ça peut être, tu vois? Qu'est-ce qui favorise la prise de risque? Il y a un certain type d'investisseur qui aime la prise de risque et qui, du coup, va plutôt monter des startups qui sont définies par la prise de risque. Tu vois, ce genre de choses. C'est plus, à mon avis, il faut plus regarder dans l'environnement. Après, il y a plein de marchés qui prennent un intérêt, mais enfin de mon côté, moi, ce qui compte pour moi personnellement, c'est pas nécessairement les métriques que Bloomberg regarde, même si je comprends complètement que les gens sont intéressés par ça. Moi, j'ai pas nécessairement envie d'être dans une place de start-up qui est en voie de maturité et de l'aider à arriver à la maturité. Je préfère être dans un endroit qui a déjà cette maturité un peu contribuée. J'ai pas envie d'en faire mon combat, en fait. Je préfère être dans un endroit où il y a déjà la culture start-up, où il y a déjà beaucoup de choses qui sont mesurablement des succès. Et quand tu regardes concrètement comment tu mesures le succès d'une start-up, tu mesures à sa sortie, quelle est la valeur de son IPO, quelle est la valeur de son acquisition. C'est vraiment les deux sorties possibles. C'est comme ça qu'une start-up a du succès. Et quand tu regardes, en fait, où ils sont les gros succès start-up, les grosses sorties start-up, les États-Unis ont quand même une grosse, grosse, grosse avance sur le reste du monde. Du coup, je me dis, ça risque de changer à l'avenir avec toutes ces indications et tout ce que Bloomberg mesure. Je suis d'accord que la tendance, elle est plutôt à donner sa chance à plus d'endroits et plus que les États-Unis et que la Silicon Valley. Mais pour l'instant, ça reste ici l'endroit où il y a le plus de maturité et de succès mesurable, quoi. Donc, pour l'instant, je reste ici.
C'est une tendance de fond, désolé du jeu de mots, mais il semble que depuis 2 ans, les financements soient moins faciles à obtenir quand on monte une start-up. Donc, ça veut dire que ça date déjà d'avant Trump que dans la Silicon Valley, dans les principaux lieux tech des États-Unis, il y ait moins de facilité à monter des fonds d'une manière importante.
Ouais, je sais pas si 2 ans c'est correct, parce que je me rappelle qu'il y a 1 an et demi, j'avais des potes qui montaient des startups et qui arrivaient à lever sans trop de difficultés. Mais oui, c'est clair qu'il y a une baisse de l'investissement dans les startups très très early stage. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, franchement. Parce que, ouais, non, ouais, je suis
On
plutôt content de
finançait
ça,
un
en fait.
peu tout et n'importe quoi.
Ouais, il y avait beaucoup de ça, surtout dans la Silicon Valley, tu voyais beaucoup de gens qui créaient en fait des startups parce que c'est bien de créer une startup sur ton CV, mais qui n'avaient pas vraiment nécessairement l'envie de la, comment dire, de la construire de manière plus solide. Et comme c'était facile, en fait, finalement, bah, tu te retrouvais un peu avec des projets comme ça qui n'étaient pas nécessairement prometteurs, pas nécessairement stables. Alors que si ça devient plus difficile, bah, du coup, il va falloir montrer un peu plus de ce que tu as réellement fait, faire un peu plus d'efforts. Ça va pas être, tu vois, je fais une startup pour me glorifier moi-même. Ça va être des vrais business plus intéressants. Ça va rendre le boulot des VC un peu plus simple. Ça va créer des plus jolies boîtes. Du coup, par contre, ça, c'est pas plus difficile de lever de l'argent maintenant qu'il y a 2 ans pour une startup qui est déjà mature. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que le marché continue à construire des choses vers le haut et à construire de la valeur quand les choses, elles sont stables. Enfin, elles sont un peu plus prouvées que early stage, quoi. Mais ouais, early stage, c'était un peu trop n'importe quoi. Donc, je suis pas nécessairement mécontent de cette tendance. Ça, c'est sûr.
D'accord. Depuis 2001, donc, les étrangers se font fouiller à l'heure de leur arrivée sur le sol américain. Même maintenant, on demande les accès aux réseaux sociaux et aux boîtes email à l'avance avant de débarquer. Est-ce que, bon, c'est pas dû à Trump, hein, et Obama aussi a durci le dispositif. Est-ce que c'est pas un frein non plus pour faire du business avec des étrangers?
Si, c'est prouvé même. En soi, là, cette semaine, toutes les news n'arrêtent pas d'en parler du fait que les chiffres du tourisme sont complètement effondrés. Si tu dis que les chiffres du tourisme sont effondrés, bah, du coup, ça veut dire que les gens qui viennent aussi pour faire du business à tous les coups viennent plus non plus pour exactement les mêmes raisons. Donc, ouais, à mon avis, c'est assez sûr. Et c'est même pas que ça. Donc, il y a la TSA. Hein, il y a clairement un problème avec la TSA et les fouilles à l'entrée de la frontière. Et la reconnaissance des droits constitutionnels à l'entrée de la frontière, même s'il y a des cas en ce moment qui sont dans le cycle judiciaire, qui pourraient très bien changer beaucoup de choses, que si ça monte à la Cour suprême et tout ça, il pourrait vraiment se passer des choses intéressantes pour dire non, non, les êtres humains ont autant de droits à la frontière qu'ailleurs, ce serait vraiment bien. Mais il y a aussi évidemment le discours de Trump a quand même empiré les choses, même si les problèmes de la TSA sont plus anciens. Le fait que les gens, nécessairement, partout dans le monde, ils écoutent ce que Trump dit, ben, tu te sens moins bienvenu à venir, même en tant que touriste dans un pays où tu as un chef d'État qui dit des trucs comme ça. Je pense vraiment que oui, c'est une évidence que ça fait du mal aux États-Unis. Voilà. Comme je disais, hein, tout à l'heure, hein, c'est un choix qui est fait par le gouvernement, qui donne des résultats. C'est ce qui est souhaité, et c'est les résultats qui sont souhaités. Tant pis pour eux, quoi.
À une époque, la Californie était très en pointe dans la législation pour l'environnement, puisque je crois qu'ils avaient leur agence régionale qui a été créée dès les années 60. Avec Trump, l'EPA se fait museler, toutes les études sur le réchauffement climatique se font censurer et tout ça, alors que la Chine commence à réguler de son côté et veut même montrer une certaine avance. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un rééquilibrage qui va se faire? Ou est-ce que justement la manière dont Trump se comporte, ça remet en cause pas mal de choses dans les entreprises et du coup les entreprises se reposent des questions justement sur le harcèlement sexuel, moral et tout le reste? Alors je
Alors,
sais,
attends,
la
il y
question
a
est
plusieurs
complexe.
choses.
La question est complexe justement, oui. Je suis désolé.
Attends, déjà d'une part, la Californie et la Chine, je pense que c'est deux exemples qui sont pas des bons exemples pour ce thème-là. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est pas les bons exemples. La Californie, d'une part, parce que rappelle-toi que l'EPA, elle est au niveau fédéral.
Oui.
Du coup, les États ont complètement la possibilité d'ignorer ce qu'ils disent et de faire ce qu'ils veulent. Et que la Californie sont toujours super, super strict sur les lois environnementales. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire sur le reste des États-Unis? C'est clair, l'EPA, c'est un peu une cata pour les États qui n'ont pas spécialement jamais eu trop de démarches environnementales. C'est vrai que c'est une cata. Pas la Californie, par la force des choses, mais les autres, oui. La Chine, je pense que c'est pas un bon exemple non plus parce que c'est un des seuls pays qui a un retard absolument catastrophique par rapport à tout ce qui est environnement. Par contre, il y a d'autres pays qui ont vachement moins de retard par rapport à l'environnement, qui pourraient vraiment prendre la place des États-Unis rapidement par rapport au leadership là-dessus. En Chine, il y a un truc, alors je sais pas si c'est vrai, mais je me rappelle que quand j'étais à San Francisco, les gens disaient que 30% de la pollution à San Francisco vient de la Chine. Tu vois, parce que c'est de l'autre côté de l'océan. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais tu vois, c'est pour te dire, il y a vraiment ce truc de, bah, la Chine, c'est les gros, gros pollueurs. Mais par contre, bah, en comparaison, si tu regardes avec les lois européennes, c'est vachement intéressant ce qui se passe. Et l'Europe pourrait vraiment prendre le dessus là-dessus. Il y a pas mal de choses qui se passent en Amérique du Sud qui ont l'air d'être très intéressantes aussi, tu vois. Donc, peut-être pas la Chine, mais ailleurs, ouais, c'est clair. Et c'était quoi le lien avec le harcèlement sexuel? J'ai pas du tout.
Du coup, est-ce qu'il n'y a pas non plus un coup de fouet qui se fait dans les entreprises par rapport au harcèlement sexuel, vu comment Trump se comporte, et donc des règles plus strictes qui sont en train de se mettre en place en contre-coup?
Ah, mais carrément. Et c'est cool ça. T'as vraiment une population de gens qui avaient pas nécessairement, qui prenaient ça comme, c'est comme ça en fait. Ça fait partie de la culture d'entreprise qu'il y a des gens qui agissent mal les uns avec les autres et c'est culturel, plus dans certaines industries que d'autres. On a vu que dans le ciné en ce moment, ils en parlent beaucoup. Et là, on commence vraiment, j'ai l'impression, hein, moi, je ne suis pas trop dans ces bulles-là, mais je pense que je vois à peu près la même chose que ce que toi tu vois. Les gens, ils commencent à dire, mais en fait, pourquoi on trouve ça normal, quoi? Qu'est-ce qui est acceptable là-dedans? Et pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas à tout le monde, hey, cette personne-là, elle m'a fait ça? Et est-ce que à qui cette personne-là a fait des choses aussi? Parlons-en et on n'aura pas de comment dire de backlash, je sais pas comment dire, tu vois,
De
des
oui,
gens qui nous puniront, quoi, de
oui.
rétaliation.
Voilà, de retour de bâton.
C'est
C'est
ça, ouais. Bon,
ça le terme.
parlons-en. Top, quoi.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et donc nous sommes avec Rudy Rigaud qui est senior software technologist expatrié aux États-Unis, plus exactement à Chicago. Alors, je sais que tu n'es plus en Californie, mais y a-t-il un réel effet French Tech où personne n'en entend parler honnêtement?
Ah, alors,
Alors
ça, c'est
toi,
un
t'es
sacré
français, t'es
sujet.
expat parce que donc tu entends parler, mais après
Ouais,
quand tu
ouais.
en parles, est-ce que ça c'est mutisme ou c'est oh yeah?
Je pense que c'est un truc qu'il faut d'abord savoir, c'est que surtout en termes de valeur marchande, les Américains, ils classent pas du tout par nationalité les choses. Mais même les produits américains. Et ça, je l'ai vu beaucoup en France. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voir des acheteurs ou des clients, des annonceurs, voilà, des clients potentiels, qui regardent deux produits, qui les comparent et qui disent ah bah tiens, ce produit-là, il est un peu mieux que celui-là, mais le deuxième, il est français, donc c'est un critère, donc du coup, on va prendre lui. Tu vois, ça n'existe pas du tout ici. Genre, t'as un produit ici qui est un peu mieux que l'autre, le deuxième, il est américain, le premier, il est italien, tu prends le produit italien, il est mieux que l'autre. Tu vois, les gens, ils se posent pas cette question de d'où vient la nationalité.
On
Du
n'est
coup, je
plus dans
pense.
le buy American, c'est fini quoi.
Le pardon? Ah, pas dans les. Je pense que ce qu'essaye de faire le Hire American, Buy American, tout ça au niveau du gouvernement, c'est plus pour les consommateurs qu'ils achètent des voitures et des trucs comme ça. Mais les boîtes, les produits B2B, il n'y a pas du tout cette notion-là. C'est vraiment, ils vont, vas-y, prouve-moi que tu vas me donner de la valeur si j'achète ton produit. Si tu peux me le prouver, je vais prendre ton produit, j'en ai rien à foutre d'où il vient, quoi, en gros. Du coup, un peu cette notion de, on est French Tech, donc du coup, ça prouve que la France, elle fait des meilleurs produits. Je la vois pas comme vraiment pouvoir accrocher sur la culture ici. Et en plus, je pense qu'elle peut être négative, involontairement, par le fait que si les gens mentionnent French Tech en disant que c'est un programme gouvernemental, vu que les Américains, ils détestent l'intervention du gouvernement dans le domaine privé, je pense que ça peut faire genre, et pas nécessaire, tu vois, c'est un peu, comment dire, c'est un peu cynique, mais c'est pas faux de se dire que ce genre de programme s'est créé parce qu'il y avait quelqu'un qui essayait de se faire réélire, pas nécessairement pour créer de la valeur. Du coup, c'est un peu ce que les Américains vont voir en premier, même si je pense que French Tech a de la valeur, mais ce qu'ils vont se dire en premier, c'est ah ben oui, mais c'est un programme gouvernemental, donc c'est pas fait pour faire de la valeur, c'est pour faire réélire. Pourtant, je suis convaincu qu'il y a des gens bien intentionnés dans French Tech, que ça crée de la valeur pour les Français entre eux, qui s'entraident, que c'est une démarche qui est positive à plein d'aspects, mais je pense pas que ce soit une bonne idée d'en parler à des clients américains, ou en tout cas, ne mentionnez surtout pas que c'est un programme gouvernemental, à mon avis.
D'accord, ok. Les Français dans la Silicon Valley, ça n'a rien de neuf. C'est quoi la spécialité des Français expats pour les employeurs locaux?
Ben, c'est un peu pareil en
C'est
fait. Ils
l'accent
redoutent pas
bizarre?
par un. Ouais, alors il y a ça, c'est sûr. L'obsession avec la bouffe. Normal. Mais en fait, à la fin, en fait, c'est un peu pareil. Il n'y a pas ce réflexe de regrouper par nationalité la valeur, en fait. Du coup, tu vas avoir un ingénieur qui est bon et qui se trouve être français. Au prochain ingénieur français, tu vas pas dire, ah ben oui, il est français, donc il est sans doute bon aussi. La différence qu'il peut y avoir, c'est que par contre, s'ils viennent de la même université ou de la même formation, là, oui, parce que, et qu'ils sont juniors. Tout le monde s'en fout une fois que tu as un certain nombre d'années ici, contrairement à la France, tout le monde s'en fout d'où tu es allé à l'école. Mais par contre, si c'est deux juniors, ils vont se dire, ah oui, ils ont été formés par le même truc, ou que ce soit dans n'importe quel pays, le premier, il était bon, donc le deuxième, peut-être, ça va m'intéresser. Mais à l'inverse, c'est beaucoup plus glorifiant finalement quand on y pense, le fait que les Américains ne séparent pas par nationalité, parce que ça veut dire que les produits français et les employés français qui trouvent leur place aux États-Unis, bah, c'est vraiment pour leur vraie valeur. Tu vois, c'est génial, t'es français, t'as pas vraiment le mur qui existe pour les produits non français en France. Tu peux créer à fond de la valeur et se faire reconnaître pour cette valeur avec un peu de chance. Et c'est ça qui va vraiment te porter. Donc, c'est plutôt positif finalement.
D'accord. Est-ce que les startups américaines parlent de s'installer en Europe, voire en France ?
Ouais, alors ça, c'est... mon avis perso.
Vas-y.
Mon avis perso, c'est que il y a vraiment un truc très vertueux dans l'idée d'avoir, en tant que startup, sa R&D en France et le reste aux États-Unis. Parce que l'ingénieur français a quand même des qualités qui sont super intéressantes. Comme il n'y a pas beaucoup de produits sur le marché français, il y a plus de consulting en proportion par rapport à ici. Nécessairement, il y a un peu plus de loyauté par rapport à l'employeur. C'est beaucoup moins cher. Il y a une culture un peu de vouloir faire les choses vraiment très bien, tu vois. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'avoir cette approche-là. Après, il y a aussi nécessairement, comme toute chose, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Alors, il y a le verrou un peu du code du travail quand t'embauches quelqu'un et que ça se passe pas bien et tu peux pas le virer. Du coup, ça crée de la mauvaise morale. Tu crois, dans toutes les équipes où j'ai été en France, il y avait toujours une personne qui était catastrophique et qu'on pouvait pas dégager, quoi, ce qui existe pas vraiment ici. T'as l'affaire Dailymotion dont les gens continuent de parler encore un peu. Ah bah oui, mais je viens d'ici, si je mets... Ah ouais, non, mais...
Ça fait 5 ans quand même. Ça a fait des dégâts, quoi.
Imagine, t'es VC, ton but, c'est de mettre de l'argent dans une startup où t'es sûr qu'elle va pouvoir faire une sortie de grosse qualité et tu te dis, ah ouais, mais si elle est française, il y a peut-être le gouvernement français qui va me bloquer, c'est un risque dont j'ai pas besoin.
D'accord.
Mais ouais, c'est logique, en fait. C'est de la mesure de risque. Là, il y a un risque en plus, rien que par la nationalité. Donc, du coup, ça se comprend. Je sais pas quelle est la vraie friction par rapport à ça. J'entends parler, mais je sais pas si ça empêche des deals, tu vois. Il y a aussi la surveillance citoyenne, même si elle est pas nécessairement fondamentalement mieux ici. Mais les gens en parlent encore de cette loi. Le fait, et c'est pas faux qu'en France, les modèles d'innovation sont un peu moins théoriquement connus qu'ici. Le marché fragmenté européen, quand tu sors un produit, tu le marketes en français, bah, tu dois le remarketer en italien pour l'Italie, tu dois le remarketer en allemand. Alors qu'ici, tu sors un produit, c'est bon pour tout le territoire américain, voire même canadien. Donc, t'as des points positifs et négatifs un peu, mais en tout cas, moi, je trouve une valeur très forte d'avoir la R&D en France et le reste ici pour justement pénétrer ce marché ici qui est moins fragmenté.
D'accord. Et justement, puisqu'on parlait de loi de surveillance, là, je ne sais pas si tu es au courant, mais donc, en Europe, va entrer en application un règlement général européen pour la protection des données personnelles, ça s'appelle le RGPD, ou GDPR en anglais. Est-ce que la Silicon Valley en a entendu un petit peu parler, elle qui monétise les données personnelles des visiteurs ?
Oh oui.
Et ils ont peur ?
Tout le monde ne parle que de ça. Non, pas peur parce que il y a un peu cette conscience que si tu fais les choses bien, tu devrais pas avoir de problème. L'aspect punitif de la GDPR, il est vraiment élevé, hein. Je crois que c'est 10% du chiffre d'affaires, enfin ou un truc comme ça,
c'est 5%.
5%, voilà.
5% sur l'ensemble du groupe, hein.
Ouais, c'est clair. Donc du coup, ce que je me dis, en fait, j'ai vachement réfléchi à ça parce que c'était un des derniers trucs sur lesquels j'ai bossé à Salesforce avant de quitter Salesforce, c'était ça. Et bon, pour Salesforce, c'est une évidence. Ils ont le marché européen, c'est un des axes de croissance stratégique pour Salesforce. Ça fait des années qu'ils le disent. Pour eux, c'est extrêmement important. Ils sont déjà là-bas, donc ils ont vraiment pas le choix. Ils ont fait partie des conversations pour écrire la loi, donc c'est un domaine qu'ils connaissent très très bien. Donc, ben, il y a vraiment une revue à l'échelle de l'ensemble de l'ingénierie sur où est-ce qu'on stocke nos données? À quel point est-ce que c'est facile de supprimer les données personnelles? Est-ce qu'on a vraiment besoin de stocker cette donnée personnelle? Comme ça, c'est plus simple si on n'a même pas besoin de la supprimer. Voilà, il y a vraiment toute cette réflexion là-dessus. Dans ma boîte actuelle, on est beaucoup plus petit, mais on a une présence en Europe. Donc, du coup, on en parle aussi. Mais comme on est plus petit, on a aussi beaucoup moins d'assets software. Donc, du coup, c'est plus simple pour nous de supprimer de la donnée en sachant un peu où elle est. Tu vois, on connaît la vue d'ensemble de où elle existe, notre donnée, elle est plus simple, quoi. Sachant que tu n'as rien besoin de changer, en fait, tant qu'on t'a pas demandé de supprimer quoi que ce soit. Donc, c'est juste préparer le fait qu'on risque de te le demander et de savoir comment tu feras quand on le demandera. Et par contre, je me dis, bah, les boîtes qui n'ont pas, ça, j'ai beaucoup réfléchi à ça aussi, les boîtes qui n'ont pas encore une présence en Europe, tu vois, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Est-ce que ça va les dissuader d'aller s'installer en Europe parce que du coup, elles doivent être en compliance, je ne sais pas comment ça se dit.
En conformité.
Avec la GDPR. Ouais, voilà, en conformité avec la GDPR. Je me dis, il y a peu de chances que ça ait un impact. Parce que concrètement, tu es une boîte américaine, tu fais la décision stratégique de t'installer à l'international. T'as pas des masses de marché à part, tu vois, avec des pays qui sont déjà, où il y a déjà beaucoup d'argent qui tourne, tu sais, t'as l'Europe, t'as l'Asie, t'as peut-être un peu une partie de l'Amérique du Sud, l'Afrique, pas trop, peut-être un peu l'Australie, mais il y a vraiment pas grand chose, il y a pas beaucoup d'habitants. Donc, au final, c'est quoi? Tu vas choisir d'aller en Asie avant en Europe, et une fois que t'es installé en Asie, tu vas où d'autre? Tu vas en Europe, quoi. Donc, en fait, au final, c'est les boîtes qui ont pris la décision que c'était un axe stratégique de s'établir à l'étranger. Je pense pas que ça va les bloquer en particulier ou pas longtemps, quoi. Tu vois.
D'accord. Rudy, merci beaucoup.
Pas de problème, avec plaisir.